10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est un jour particulier aujourd'hui puisque c'est un jour de fête. Alors bonne fête de l'Aïd à tous. Bonjour Imam Abdelali, bonne fête.
Bonjour à tous. Aïd Moubarak Saïd, wa kullu antum bi khair, wa taqabbal Allahu minna wa minkum. وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. Bonne fête à toutes et à tous. Voilà, tous nos auditeurs auditrices qui nous écoutent. Voilà, je voudrais leur souhaiter qu'Allah Azza wa Jalla les couvre, les comble de sa miséricorde, de ses bienfaits, de la joie, du bonheur, de la santé, inshallah. Et que l'on voit encore une fois bientôt encore une fois partir ce Covid qui vient sous une nouvelle forme. Et j'essaie de pas trop être rabat-joie, mais voilà, faire attention, faites attention à vous, prenez soin de vous.
Faites attention à BA5, l'imam Youssef Hachmaoui est avec nous. Bonjour Cheikh.
Bonjour Philippe.
Bonne fête.
Merci. Aïd Moubarak Saïd à tous. Bonne fête à tous. Aïd Moubarak Saïd, wa kullu amin wa antum bi khair.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Oui, bien sûr, c'est ce jour-là qu'il est recommandé de multiplier le dhikr, du verbe dhakara. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, tu savais pas ce que ça voulait dire. Dhakara, c'est tout simplement chanter la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, le takbir, le tahlil, le tahmid, c'est-à-dire chanter les louanges de Dieu et les remerciements pour tous les bienfaits qu'il nous accorde en ce jour béni, donc où dans lequel nous devons montrer notre joie, notre satisfaction, que Dieu puisse tout simplement nous accorder autant de miséricorde, puisque nous sommes, comme le dit le prophète, le meilleur jour de l'année. Khayru ayyam as-sana yawm al-Eid thumma yawm al-Qar. Dans un hadith, il est rapporté que le meilleur jour de l'année, c'est le jour de l'Eid. Eid al-Adha al-Mubarak est le meilleur jour de l'année.
Alors ça, moi, c'est bizarre, parce que moi, je pensais que c'était hier, le meilleur jour de l'année.
Il y a effectivement des hadiths qui disent que, en termes de spiritualité, le meilleur moment pour gagner des hasanats, pour accumuler les récompenses divines, cette fraîcheur de spiritualité du jour de Arafat, il est intense, il est recommandé de le jeûner et d'accomplir un maximum de bonnes actions ce 9e jour du mois de l'Hijja, mais aussi le 10e, puisque le hadith est clair. « Ma min ayyam, al-amal salih wa ahabbu ila Allahi min hadhi al-ayyam » et il parle des 10 premiers jours du mois de l'Hijja, où est-ce qu'il est recommandé à chacun, y compris le dernier, c'est le summum, c'est la dernière ligne droite, où est-ce qu'en général les athlètes, Philippe, hein, Il y en a des athlètes qui sont en train de courir là, au rang, là, je les ai vus, c'est, mashallah, ils sont forts, hein. Bravo. C'est dans la ligne droite qu'on court, Philippe. La dernière ligne droite, on court, on met le paquet, on fait un maximum de bonnes choses, et le jour de l'Aïd, eh bien, on met le paquet, et on reçoit, bien sûr, de Dieu, la récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde à notamment ceux qui, se sont bellement habillés, se sont embellis, se sont parfumés, ont pris une bonne douche avant de partir faire la prière de l'Aïd, cette cérémonie fortement recommandée, où est-ce que tout un chacun est invité à venir, y compris les enfants, les filles, les garçons, tout le monde doit y aller, même ceux qui ne peuvent pas prier, les femmes indisposées, etc. C'est pour cela que l'association musulmane, pour la plupart des cas, essaye de faire en sorte que cette fête se passe dans un lieu, un musalla, c'est-à-dire un lieu, qui est temporaire, qui n'est pas un lieu de prière pérenne, mais temporaire, comme un gymnase ou un stade, etc. Où est-ce que l'imam va exhorter les fidèles et faire des invocations pour que cette invocation touche l'ensemble des membres de la communauté. Donc, ne laissez pas vos familles chez vous ce jour-là. Sortez, faites sortir les enfants, les filles, tout ça. Et ce qui est bien sûr recommandé, c'est le takbir qu'on vient de faire. Tout de suite après, ce qui est recommandé, c'est de procéder à l'immolation et à l'abattage rituel, hein, dans la mesure du possible, bien sûr. On délègue à des sacrificateurs dans des abattoirs pérennes ou mobiles. On fait le nécessaire et on respecte les règles sanitaires, bien entendu. On n'encourage pas l'infraction à la loi parce que ça peut vous coûter cher. Et même d'un point de vue sanitaire, parce qu'un animal qui n'a pas été vérifié, surveillé par un vétérinaire qui voit passer les bêtes qui sont égorgées, eh bien, peut être contaminé, peut être malsain à la consommation. Et donc, il est important de faire cela. Autre chose, c'est de consommer cet animal, si on est sûr qu'il est sain, bien sûr, s'il est propre et tout. On l'a égorgé, on le mange et on va rendre visite à la famille. On va rendre visite à la famille et présenter, bien sûr, nos meilleurs vœux à tous les membres de la famille, à nos amis, à nos proches, à nos voisins, à tous ceux que l'on aime. Alors, beaucoup, ils s'envoient des SMS, mais le mieux, c'est le présentiel, c'est d'aller rendre visite et faire des embrassades. Bien sûr, dans le respect des... Là, encore une fois, on va pas répandre l'épidémie du Covid. Voilà, du variant. Qu'est-ce que ça dit? BA5, ça dit ça?
BA5, jusqu'à présent, Imad voilà. Delali.
Voilà, je laisse un peu la parole à Cheikh Youssouf pour qu'il nous en dise un peu plus sur ce jour-là, ce jour magnifique.
Alhamdoulilah, tout a été dit. Je pense qu'il faudrait surtout ne pas oublier à se demander mutuellement pardon. Parce qu'effectivement, le Arafat est vraiment le jour du grand pardon. D'accord? On a bien sûr le Eid, qui est le jour du Hajj ultime, Yom al-Hajj al-Akbar. Et bien sûr, ce qui est important de faire, c'est se demander mutuellement pardon. Très, très important. Alors, on pourrait se dire, mais bon, peut-être que je leur ai rien fait. Peut-être que je n'ai rien dit. Il y a plein de choses qui peuvent nous échapper. On ne sait pas dans quelles circonstances. Il est important de réitérer, de demander le pardon à tout un chacun qu'on aurait pu, un moment, offenser ou autre. On ne sait pas. Il est important de renouveler, se demander mutuellement pardon. C'est très, très important. Notamment aujourd'hui, au niveau des amis, des collègues, notamment de la famille. Il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui se déchirent pour un rien aujourd'hui. Et aucune famille n'est épargnée, malheureusement. Donc, il est important de réitérer, alors, à défaut de s'envoyer lorsqu'on est très, très loin. Mais il est vrai, lorsqu'on est vraiment dans des petits périmètres où ça reste plus ou moins accessible, il est important de pouvoir se déplacer chez les gens. Ça se perd énormément aujourd'hui. Mais il est important de pouvoir se rendre visite mutuellement, se rencontrer mutuellement et de se demander pardon mutuellement. C'est très important ce jour-là.
Est-ce que dans la façon qu'on a de se rendre pardon, il y a une façon de le faire?
Le meilleur des deux, dit le prophète, qu'il y a des deux personnes qui sont embrouillées, c'est celui qui va faire le premier pas vers l'autre pour demander pardon, et voilà, et il s'embrasse et il dit je m'excuse, inchallah mekoun al khair, voilà, tout va bien, on se pardonne, on s'excuse, lui aussi se demande pardon, et puis voilà, et puis c'est fini, on tourne la page. Ça, c'est très important. Il l'a dit, Cheikh, hein, mashallah alayh, c'est un point essentiel pour faire en sorte que ce moment soit véritablement le plus fructueux et qui contribue à consolider les liens sociaux dans la communauté des croyants et même avec le reste de la communauté nationale, il n'y a pas de souci.
Sunna, effectivement. Le prophète alayhi salatu wassalam, excusez-moi cher Abdel Ali, d'ailleurs nous disait que lorsque nous allons prier dans une mosquée, donc dans un lieu ouvert, généralement aujourd'hui en France, nous avons quand même l'aubaine d'avoir des lieux ouverts qui nous sont réservés, attribués pour les jours de l'Eid. Je pense notamment, à l'époque, c'était beaucoup les gymnases. Il n'est pas très recommandé de le faire à la mosquée, excepté pour des conditions climatiques qui seraient défavorables. Néanmoins, aujourd'hui...
Pourquoi il n'est pas recommandé de le faire à la mosquée?
Parce qu'il est important de manifester la joie à l'extérieur et que tout un chacun puisse y venir. Notamment, comme l'a dit Cheikh Abdel Ali, les femmes qui seraient indisposées. Donc une femme, un homme et une femme qui sont indisposés, il aurait même fortement déconseillé de pénétrer dans un lieu de prière comme une mosquée. Ici, justement, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux enfants, c'est ouvert à tout le monde, même aux femmes qui ne sont pas en état de prier, elles viennent.
Donc bien sûr, elles ne prient pas,
tout à fait.
Elles n'ont pas
la posé la question.
Mais elles s'assoient et elles disent Amin aux prières de l'imam.
C'est ça. Il leur a dit, mais même les femmes qui ne sont pas en état de prier, mais elles viennent pourquoi alors si elles ne prient pas? Il leur a dit, Yashhan al-Khayr wa da'wat al-Muslimin. Elles vont justement assister, elles vont découvrir, elles vont témoigner du bon, du bien, et surtout vont participer à l'invocation collective des musulmans. Donc ça, c'est important pour être tous ensemble et pour pas qu'il y ait de gens qui soient, je ne dirais pas discriminés, mais qui soient mis à l'écart. Vous êtes en état de pureté, venez, vous ne pouvez pas rester chez vous, non. C'est vraiment un lieu qui est vraiment un lieu public, ouvert à tout le monde, et qui est accessible à tout un chacun, musulman et même non musulman, si on le souhaite. Donc aujourd'hui, on le fait beaucoup dans des stades ouverts, qui sont très accessibles, ouverts à tout le monde, Et c'est une aubaine aujourd'hui pour la communauté. Et on remercie d'ailleurs les autorités, les politiques qui œuvrent afin que les musulmans puissent prier ce jour-là et puissent pratiquer leur culte dans les meilleures conditions.
Quel est le statut de cette prière d'ailleurs de l'Aïd ? Elle est obligatoire ?
Elle est sunna mu'akkada, c'est-à-dire une forte recommandation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit tout simplement à tout un chacun, allez chercher votre récompense, votre salaire. Vous avez fait du bien pendant 10 jours, vous avez accompli de bonnes choses pendant ces 10 jours, venez recevoir de Dieu votre récompense, car elle vous attend à la mosquée, dans ce monsalla, ou je veux dire pas la mosquée mais le monsalla, à travers l'invocation où les anges sont là pour prendre témoin, être témoin, où Allah Azza wa Jalla tout simplement leur annonce cette nouvelle et qu'il leur a pardonné tous leurs fautes, tous leurs péchés. Ils ressortent de la mosquée, du Moussallah plutôt, complètement soulagés de leurs fautes. Et ensuite, ils sont invités, comme je le disais, à aller soi-même égorger et procéder à l'abattage rituel de leurs bêtes qu'ils ont consacrées. Dans le Coran, il est clair, il dit wal budna ja'alnaha lakum min sha'a'irillah. Les animaux, ces bêtes, ce bétail qui a été consacré comme en offrande pour contribuer à mettre en valeur et exalter les rites de Dieu, hein, sha'a'irillah. Donc le croyant qui exalte les rites de Dieu, eh bien imprègne la foi dans son cœur. Dhalika wa man yu'azzim sha'a'irallah fa innaha min taqwa al-qulub, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Eh bien cela fait partie de la piété du cœur. Et donc à partir de là, il fait attention sur le choix de l'animal. L'animal doit être sain, il ne doit pas avoir de problème, ni borgne, ni aveugle, ni avec les oreilles coupées, ni avec, par exemple, une jambe cassée. L'animal doit être sain et pur, et on n'a pas pris le plus mauvais. Et ensuite, on procède à l'abattage. Bien sûr, le mieux en France, c'est de déléguer cela à des professionnels qui vont faire le travail à votre place. Mais il est bien d'être là. Il est bien d'être présent. Un Fatima radiallahu anha qui était restée chez elle, le prophète est venu la voir et dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, ya Rasulallah, dhahab an-nas yadhbahun, ils sont partis égorger, moi je ne peux pas aller les rejoindre. Il dit, bala, idhabi wa shhadi udhiyataki. Hein, le prophète lui dira, va être témoin, va assister à l'abattage de ton mouton, du bélier, de l'animal qui a été choisi pour être égorgé pour ta famille. Wa quli, il lui dira le prophète, et dit inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ma prière, mon rituel d'abattage, l'essentiel de ma vie et l'essentiel de ma mort, je les consacre à Dieu, sans qu'il ait d'associé, et ceci est un ordre de Dieu et c'est pour cela que je me soumets. C'est l'acte de soumission. Ce rituel manifeste symboliquement la soumission du croyant, son adhésion à cette religion qu'on appelle l'islam. Wa ana awwalul muslimin, et je suis ainsi grâce à cela le premier des musulmans. Donc il est fortement recommandé que tout de suite après la bata, après la prière de l'Aïd, fassalli li rabbika wanhar, inhar, égorge, va procéder à cet abattage rituel comme le prophète alayhi salam l'a recommandé, et surtout d'attendre la fin de la prière, d'attendre la fin de ce sermon que l'imam va prononcer après la prière pour pouvoir enfin immoler l'animal, car le prophète dit dans un hadith authentique, man dhabaha qabla as-salat fa innama yadhbahu li nafsihi, celui qui égorge avant la prière, eh bien il aura égorgé pour lui-même. Wa man dhabaha ba'da as-salat, et celui qui égorge après la prière wal khutbatayn faqad atamma nusukahu, il aura réalisé pleinement son rituel d'abattage wa asaba sunna, et aura atteint la sunna, la tradition prophétique du prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadithun muttafaqun alayh, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari et Muslim.
Voilà, c'est l'Aïd sur Beurre FM, hein. Vous savez, toute la journée, vous pourrez d'ailleurs passer vos vœux de l'Aïd au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Bonne fête de l'Aïd sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun et le cher Youssef Hachmaoui. Alors, l'Aïd a plusieurs noms. Quels sont les différents noms qu'on retient pour cette Aïd-là?
Bah oui, Eid al-Adha, c'est le nom principal, c'est-à-dire la fête du sacrifice. Al-Adha, al-Udhiya, ça vient du mot sacrifier. Udhahi bishay, c'est-à-dire je sacrifie quelque chose. Donc ça, c'est le terme principal. Il y en a qui utilisent aussi le terme Eid al-Kabir. Eid al-Adha al-Kabir, hein, ils rajoutent, ils mettent les deux mots.
Kabir, alors, ça voudrait dire grand.
Ça voudrait la grande fête, c'est la grande fête, puisque le mot Eid, c'est masculin. Mais en arabe, fête, c'est féminin. Donc Eid al-Adha, Eid al-Kabir, c'est fête masculin. Kabir grand, c'est-à-dire grande en gros. Et pourquoi? Parce qu'elle dure 4 jours. Elle dure le jour de l'Aïd et 3 jours après, qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Ce sont des jours où est-ce que à l'époque du prophète, les animaux, les carcasses étaient exposées au soleil, on séchait les animaux, la chair effectivement, comme tu dis, Chir, pour justement pouvoir la conserver le plus longtemps possible.
C'est-à-dire que les trois jours qui viennent ont aussi le statut de Aïd.
Tout à fait. Il est carrément interdit de jeûner ces jours-là. On n'a pas le droit de jeûner le jour de l'Aïd et les jours de Tachrir.
Donc c'est quatre jours.
Comme cité tout à l'heure le hadith, Cheikh Youssef, oui. Fadal.
C'est des jours où le prophète A.S.A.M. nous dit que ce sont des jours de consommation, des jours où il faut manger, yomu aklin, où il faut manger, boire, et se commémorer, bien sûr, le sens du sacrifice, mais lui, il le dit autrement en disant, et bien sûr, wa dhikrin lillah. Donc, c'est aussi un temps d'invocation, un temps de méditation spirituelle, parce qu'on médite surtout sur le sens du sacrifice. On a beaucoup de nos compatriotes français qui nous disent, dans pas longtemps, c'est la fête du mouton, ou bien aujourd'hui, c'est la fête du mouton aujourd'hui. Non, ce n'est pas la fête du mouton. Il est vrai que dans certains pays, on appelle ça tabaski, ou Qurban Bayram, ça veut dire Qurban, donc c'est l'animal qui est sacrifié.
En Turquie, par exemple.
En Turquie. Qurban, oui, mais c'est une partie. C'est surtout, alors, des jours de rencontre, de joie, de satisfaction, de grand pardon, surtout. Donc, la Arafa, c'est quand même le jour de grand pardon, d'accord? Le jour de grand pardon. Aujourd'hui, l'Eid, c'est un jour de grand Hajj, donc du Hajj ultime, Yom al-Hajj al-Akbar. Et on appelle ça, bien sûr, l'Eid al-Kbir. Et on parle bien sûr du mois du Ramadan, donc la fête du mois du Ramadan, de la rupture du jeûne de Eid Sarir ou Eid al Fitr, voilà le Eid de la le Eid al Fitr, c'est le Eid où on donne, on doit justement se de donner l'aumône et partager l'aumône, wallahi alhamd, et partager une partie de nos biens, de nos gains. Et donc ici l'Eid al Kabir, surtout le sens du sacrifice que l'on doit développer, que l'on doit comprendre, que l'on doit assimiler.
Alors justement, il est où le sens du sacrifice?
Ben, le sens du sacrifice, c'est surtout ici Dieu qui veut dire à ses créatures, et à travers cela, il nous a donné comme exemple Ibrahim alayhi salam, qui aimait tant son fils. Il faut surtout comprendre les choses dans leur contexte actuel, à l'époque. À l'époque où Dieu dit à Abraham, sacrifie ton enfant. Faut savoir que Abraham était dans un âge très avancé. Il n'avait que cet enfant. Il était aussi possible, alors sa femme était aussi âgée, il était aussi possible que s'il l'immole, s'il le sacrifie, il est aussi possible, vu son âge avancé, qu'il n'ait plus d'autres enfants. Il n'en avait pas 50 et il s'est dit, tiens, je vais en sacrifier un. D'ailleurs, même quand on en a 10 ou 50, on peut en sacrifier un. Mais c'était surtout, voilà, l'épreuve du sacrifice.
Oui, ultime.
Il lui a fait vivre et subir l'épreuve ultime. Cela veut dire, sacrifie de tes propres mains ce que tu as de plus précieux. Au nom de mon amour, sacrifie celui, voilà, au nom de mon amour, sacrifie ce que tu as de plus cher. Au nom de mon amour, sacrifie celui qui t'a fait être. D'accord? Sacrifie surtout celui que tu as contribué à être au nom, justement, de celui qui t'a fait être. Et donc, dans toutes ces circonstances-là, et une personne arrivée en Arabie, pénurie d'eau, pénurie de nourriture, etc., un climat très aride, on lui demande de faire un ultime sacrifice envers celui qui a de plus cher. Sacrifice pour qui? Pour Dieu. Donc on va remémorer
mais
cela.
Mais justement, est-ce que Ibrahim l'aime pas trop, son fils?
Mais étant donné qu'il avait, justement, il ne l'aimait pas, il était même amouraché.
C'est ça, il y a aussi le fait qu'il l'aimait trop.
Il l'aimait trop, effectivement, et donc justement, je vais te mettre à l'œuvre et à l'épreuve pour voir justement jusqu'où tu peux aller. Est-ce qu'au nom de mon amour
de soumission,
à moi, tout à fait,
ton degré d'amour que tu as pour
de
moi,
soumission. Est-ce qu'au nom de mon amour à moi, tu es prêt de sacrifier ce que tu chéris le plus au monde? Et c'est en ce sens-là que nous devons justement sacrifier. Lorsqu'on sacrifie, on n'a pas acheté quelque chose pour rivaliser avec les autres. On a acheté quelque chose, on l'achète avec une détermination et avec une foi, en se disant j'ai acheté cela en guise de sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour le conserver, je n'ai pas acheté des kilos de viande, je n'ai pas acheté quelque chose pour remplir le réfrigérateur et le congélateur. Tout à fait, j'ai acheté, c'est le sang du sacrifice, je vais en prendre une partie pour moi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement d'en consommer et d'en partager, fakulu minha, d'accord, wa at'imu al-ba'is al-faqir, et il nous le dit à la fin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit clairement, lan yarallaha luhumuha, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dans ce sens-là, ne veut pas à travers justement cette action, ce n'est pas la chair qu'il souhaite, ni la graisse, ni la viande, ni l'effusion, ni l'écoulement du sang, mais surtout ce qu'il souhaite voir en nous, c'est justement de revenir à la crainte révérentielle. Ce qu'il veut voir se manifester en vous, c'est ce sens du sacrifice et revenir bien sûr à l'essentiel, au secret de votre existence et au but ultime de votre existence, qui est bien sûr l'amour en lui, l'amour pour lui, ce qu'on appelle la taqwa, donc la crainte révérentielle.
Vous savez ce que faisaient justement les Quraysh ?
La piété, ça.
La piété, ouais, c'est la piété. Ouais, final, ouais. C'est ouais. Pourquoi Dieu a cité justement de quand il dit l'anyanal Allah luhumuha wa la dima'uha, quand il dit ce qui atteint Dieu n'est ni sa chair ni son sang, le sang de l'animal. Parce que les Quraysh, c'est-à-dire les gens qui, les polythéistes de Mecca, procédaient à cet abattage rituel ce jour-là même. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récupéraient le sang et ils badigeonnaient la Kaaba et ils jetaient sur le mur de la Kaaba le sang de leur animal qu'ils ont immolé. Et t'avais la Kaaba qui était complètement souillée par le sang des animaux, alors qu'on sait que ce sang, il est impur. Et Dieu a donc proscrit, tout simplement interdit, cette tradition polythéiste que pratiquait Quraysh, et il leur a dit, l'important, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair, c'est la piété qui est dans votre cœur. Et en même temps, à travers cela, moi je voudrais ajouter à ce qu'a dit Cheikh et Jazallahu Khairan, c'est tout à fait exactement dans le sens de ce que doit avoir dans le cœur chaque croyant qui vit ce moment intense, eh bien c'est aussi de commémorer et de rendre hommage à cet homme qui était Sayyidina Ibrahim. Notre patriarche, hein, qui est le premier soumis. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan. Et ça, c'est pas pour on va dire manquer de respect à nos amis et frères chrétiens ou juifs, mais le Coran le dit. Abraham n'était ni chrétien ni juif, c'est dans le verset du Coran. Walakin kana hanifan musliman. Et il était un hanif, c'est-à-dire quelqu'un de la foi innée, de cette foi innée, de cette hanifiyya samha.
Théotrope, comme dirait Maurice Glotton.
Théotrope, ouais, c'est comme ça qu'il traduit la hanifiyya.
Théotrope, il a dit, je n'ai pas trouvé d'autres termes, donc je l'ai traduit par théotrope, hanif.
Hanif, hanafi, quelqu'un qui a la foi innée. Hein.
Grand Maurice Glotton.
Hanifan musliman, et il ajoute le terme muslim, c'est-à-dire soumis, et c'est cette soumission. Quand Dieu lui dit « égorge ton fils » et qu'il exécute exactement ce que Dieu lui demande de faire et qu'il met son fils sur l'autel, on parle d'Ismaïl alayhi salam, et qu'il va jusqu'à l'égorger et que le couteau ne coupe pas, il s'étonne, il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, « wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin » Un cri, un son, une voix dans le ciel interpelle Ibrahim, il dit « Ibrahim, c'est bon, on a compris, tu es à la hauteur » de cet acte de soumission, tu as réussi l'examen avec succès. Tu as été véritablement le père, le porteur de cette soumission que tu vas transmettre à tous ceux qui vont te suivre après toi, et notamment notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des adeptes d'Abraham. On peut dire que le prophète Mohammed n'a pas honte de dire que son maître spirituel était Ibrahim, Abraham, hein. Et que même il a recommandé que dans chaque prière, quand un musulman fait des prières sur le prophète, eh bien qu'il prie aussi sur le prophète Ibrahim alayhi salam. Hein, quand on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc le croyant doit, quand il prie sur le prophète Muhammad, rendre aussi hommage et prier sur notre prophète Ibrahim alayhi salam, qui est le patriarche, le fondateur de cette religion qui s'appelle l'islam. Donc l'islam n'est pas la religion de Mohammed, hein, Mohammed n'est pas le fondateur de la religion de l'islam,
puisque le fondateur c'est Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl, dit Dieu dans le Coran. C'est lui, Ibrahim, qui vous a nommé, qui vous a surnommé, qui vous a donné cette dénomination de musulman bien avant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et ces fêtes de l'Aïd, nous les passons ensemble sur Beurre FM. Je rappelle que toute la journée, vous passerez vos dédicaces au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de l'Aïd à tous. Merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à Beurre FM dans ce jour. Et nous vous accompagnons, vous le savez, traditionnellement à l'occasion des fêtes. Alors l'imam Abdelali Mamoun est avec nous et le cher Youssef Hachmaoui est également là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui font le pèlerinage, hein? On dit souvent que le pèlerinage c'est Arafat, mais le lendemain il se passe quoi?
Eh bien, la veille déjà, le soir de Arafat, la veille de l'Aïd, hein, ils ont dormi à Muzdalifa. C'est-à-dire, ils sont dans un endroit entre Arafat et Mina. Les pèlerins attendent le matin pour, après le Fajr, yafidouna min Muzdalifa ila al-Jamarat. Ils vont aller tous se diriger vers les Jamarat. Alors, qu'est-ce que c'est que les Jamarat? Ce sont les stèles que l'on peut appeler aussi les stèles sataniques ou démoniaques ou du diable, Rajm al-Shaitan, comme on dit.
Les stèles sont à Mina, c'est ça?
Elles sont à Mina. C'est la première chose à faire. Elles sont à Mina, elles sont même à l'extrémité par rapport. Il faut traverser tout Mina pour rejoindre les Jamarat qui, eux, sont à la, au début, tout près, c'est-à-dire côté Mecca. Ils sont côté Mecca. Et non pas côté Arafat. Arafat est derrière nous, devant nous c'est Mecca, et donc on doit passer de l'autre côté de Minan pour arriver à ces trois stèles où le musulman va non pas lapider les trois stèles, mais une seule stèle. Le jour de l'Aïd, on ne lapide, on ne jette les cailloux que sur une seule des stèles. C'est ce qu'on appelle Jamaratul Aqaba, la grande Jamarat. Jamaratul Aqaba, qui est celle qui est en haut de la montagne où le prophète a quelques années auparavant pactisé, c'est-à-dire qu'il a fait la fameuse Bay'at al-Aqaba avec les Médinois, ceux qui sont venus de Médine pour se convertir et permettre la diffusion de l'islam à Médine. Ils étaient 12 la première fois, ils seront 72 années l'année suivante. Donc à deux reprises, le prophète reçoit des délégations qui pactisent avec le prophète, se convertissent à l'islam et vont propager avec Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, safir l'islam, ce fameux ambassadeur de l'islam, ils vont propager l'islam. Donc à Aqaba, c'est un lieu important, où bien avant, bien entendu, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'est là où est-ce qu'a eu lieu ce test.
Alors combien de cailloux?
Alors 7 cailloux, certes, on jette 7 cailloux. Mais c'est quoi 7 cailloux? C'est parce que le shaitan est venu voir Ibrahim. Il lui dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas égorger ton seul fils unique. Il a compliqué les choses. Notamment déjà lui, dans son cœur, ça va pas parce qu'il a le seul fils unique qu'on lui demande d'égorger. Mais t'as en plus Iblis qui vient ajouter une sauce et qui vient ajouter...
Une sauce.
Voilà, et qui vient aggraver, rendre encore plus les choses difficiles, qui le rappelle, il dit, mais ça va pas, tu peux pas obéir à Dieu pour ça, c'est n'importe quoi, demande-lui autre chose, mais pas ça, c'est trop dur. Donc, Sayyidina Ibrahim Salam ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des cailloux et il lapide le shaitan. Et c'est pour cela que chaque croyant, quand il veut réciter le Coran, ou quand il veut se débarrasser des tourments démoniaques, eh bien, il lapide lui aussi par cette formule. Hein, il lapide le shaitan par cette formule dans laquelle il dit « Je demande protection auprès de Dieu contre le shaitan lapidé ». Traduction, Philippe, tu connais?
A'oudhu
billahi minash shaitan rajim. Tu connais cette formule?
Ah, je la connais, ouais.
A'oudhu billahi minash shaitan rajim, n'est-ce pas, cher?
Et donc, lorsqu'on doit lapider, le musulman doit se dire quoi? Il est en train de reproduire quoi lorsqu'il lapide la stèle?
Il est simplement en train de dire « Maintenant que je suis purifié grâce à Arafat », et que Muzdalifa m'a carrément complètement débarrassé de tous mes péchés, je m'engage à ne plus obéir à ce, on va dire.
Donc je me désavoue de lui, en fait.
Voilà. Tu dis dorénavant, c'est fini, je ne t'écouterai plus. Comme exactement l'a fait auparavant Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui n'est pas tombé dans le piège du shaitan, moi aussi, dorénavant, je ne tomberai plus dans ce piège-là. Et donc, la symbolique, c'est de dire, c'est fini, je respecterai une droiture. Et ce shaitan qui est déjà mon pire ennemi, Inna shaitana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, nous dit le Coran, il faut le considérer comme votre pire ennemi. votre ennemi suprême que vous ne devez pas écouter, vous ne devez pas suivre, car tout ce que le veut Shaitan, c'est de vous envoyer en enfer, de vous faire détourner du droit chemin. Il l'a dit, il a promis, il a même juré.
Alors ça c'est aujourd'hui.
Voilà,
la lapidation des stèles.
On lapide. On est encore en état de sacralisation.
D'accord. Bon, il faut absolument partant, le faire aujourd'hui ou on peut le faire.
En partant, on disait le talbiya, c'est-à-dire on disait la baik, Allahumma la baik. Alors tu vois, c'est impressionnant, Philippe, c'est que t'as une marée humaine de gens qui vont vers les jamarat en prononçant le talbiya. Donc il dit la baik, Allahumma la baik. Là maintenant, en ce moment-là, t'as une marée humaine sur une route piétonne réservée à ceux qui vont vers les jamarat et qui prononcent le talbiya. La baik, Allahumma la baik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et tout au long du trajet, jusqu'au moment où ils jettent les cailloux en disant Bismillah, Allahu Akbar. Et à chaque caillou, ils disent Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Et quand ils terminent, là, ils changent d'invocation. Là, ils sont dans le takbir. Ils sont dans le takbir de Ayyam al-Eid. Et tu vois les gens, une autre marée humaine qui repart vers les tentes, vers la, pourquoi pas même aussi les abattoirs, parce que là aussi encore, il est recommandé pour le croyant d'aller assister ou d'aller égorger ou d'immoler un animal.
Excusez-moi, Cheikh Abdallah Ali, franchement.
Et il prononce le takbir.
C'est pas pour plomber l'ambiance, ni pour blaguer, mais il est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous disent, j'ai assisté à la lapidation des stèles, j'ai vu des gens jeter des pavés. Jeter une brique, jeter des gros cailloux.
Non.
J'en ai vu jeter une chaussure des fois.
C'est n'importe quoi.
C'est pas ça.
Alors, à Mouzdalifa, le croyant, on prépare même, les autorités saoudiennes préparent des sortes de grands tas de. Il y a des petits cailloux qui sont déjà préparés, des graviers d'une certaine taille qui sont à peu près de la taille d'un pois chiche. Et c'est comme ça que tu dois prendre le caillou. C'est 7 petits cailloux de la taille d'un pois chiche. Ou d'une fève, un hummusa ou foula, eh bien, et tu la portes avec toi et tu la jettes une derrière l'autre, calmement. C'est un acte d'adoration. Il n'y a pas de shaitan au niveau des stèles. C'est un acte symbolique que le croyant réalise. C'est un acte d'adoration, c'est un rituel. Et il réalise calmement, sans bousculer. Maintenant, les choses sont bien faites.
Une par une.
Oui, c'est une par une, bien sûr. On dit à chaque caillou que l'on jette, Allahu Akbar, et on le fait sereinement et calmement. Et ensuite, on continue son chemin. On ne revient pas en arrière pour éviter la bousculade. On suit le chemin que nous donnent les autorités saoudiennes et les soldats qui sont là-bas et la police et les guides, etc. Ensuite, on a un chemin qui nous permet de faire demi-tour. Et là, tu vois encore une marée d'humains, de croyants en état de sacralisation qui vont bientôt se désacraliser. Mais qui prononce déjà le takbir. Allahu Akbar. T'as d'un côté, labbaik, Allahumma labbaik. De l'autre côté, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et après chaque prière, et même toute la journée, le croyant est recommandé, et même le soir, de faire ce takbir, multiplier cette évocation, cette exaltation de son créateur. Et là ensuite, qu'est-ce qu'il fait avant de pouvoir se désacraliser? Il doit se couper.
Désacraliser, c'est quoi? C'est enlever les deux étoffes, c'est ça?
Voilà, enlever l'étoffe, les deux étoffes, ce qu'on appelle le ihram en arabe, et ça s'appelle les habits de sacralisation. La particularité de ces étoffes, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas cousues. Il n'y a pas de couture qui enveloppe le corps, ce qu'on appelle mahit al-muhit. Parce qu'il peut y avoir un mahit qui, par exemple, une petite poche, ça c'est pas grave. Tu peux mettre une petite poche sur le ihram, tu peux coudre une petite poche. Mais tu peux pas l'étoffe, la coudre pour qu'elle enveloppe ton bras ou ton corps ou tes jambes, pour transformer en pantalon ou en... ça doit être une étoffe qu'on appelle le izar, qui est la partie inférieure du corps. Et une...
Un pagne,
voilà, comme celui qu'on a en Indonésie, en Malaisie, n'est-ce pas, Philippe, tu connais toi? T'en mets des pagnes là-bas?
Oui, enfin moi j'appelle pas ça un pagne, mais...
T'appelles ça comment?
Hein?
Ça s'appelle comment là-bas?
Un batik.
Un batik. Un batik ou un batik?
Un batik.
Un batik. Ouais. Ben voilà, c'est un peu un batik. C'est un batik. Sauf qu'il est blanc, là, souvent, il est plutôt blanc. Alors, il n'est pas obligatoirement blanc, c'est pas une condition.
Il est vendu comme ça, généralement. C'est deux grandes serviettes blanches.
Voilà, c'est deux grandes serviettes blanches. Une qu'on met en bas du corps et qui est attachée grâce à une ceinture. Et la ceinture, même si elle est cousue, c'est pas grave. Même les sandales peuvent être cousues. Tu peux porter des choses cousues sur ton corps, sauf ces deux étoffes-là ne doivent pas être cousues. Il ne doit pas y avoir de couture qui enveloppe.
Par exemple, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut, il faut le faire obligatoirement aujourd'hui où on a plusieurs jours pour le faire?
De quoi?
La lapidation des stèles.
Non, c'est le jour de l'Aïd, bien sûr.
Voilà, le jour de l'Aïd. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour terminer le Hajj?
Alors, il reste encore beaucoup de choses. Puisque vous avez d'abord le fait de se couper les cheveux. On se coupe les cheveux pour pouvoir ensuite enlever le ihram. C'est ce qu'on disait, tu vas enlever les deux étoffes et pouvoir porter des vêtements cousus. C'est-à-dire tu vas pouvoir mettre des sous-vêtements, un qamis, etc. Et même te couvrir les cheveux avec un chapeau ou avec une chichia ou tout ce que tu veux, un taguia, etc. Ensuite, tu vas, pour terminer, déjà, faire le grand tawaf, le tawaf al-ifada.
Donc là, on a fini, on a lapidé les stèles, on s'est rasé ou coupé les cheveux, et on repart
à Mecque. Il y a quelqu'un qui est mandaté pour faire abattre ton animal, parce qu'il y a aussi l'abattage, le hadi, puisque tu as accompli le tamattu'. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Donc le hadi qui est l'offrande que le croyant va offrir parce qu'il s'est désacralisé ou plutôt qu'il a tout simplement accompli une umra avec le hajj. Quand il y a une umra et un hajj les deux, tu dois faire un hadi. Et enfin, tu vas faire à la Mecque le tawaf et le sa'i. Tu peux le faire le jour de l'Aïd, c'est la sunna, mais tu peux attendre quelques jours après pour faire ton tawaf al-ifada et le sa'i. Et bien entendu, le lendemain de l'Aïd, Yom al-Qarr, tu vas aller jeter les trois jamarat, donc 21 cailloux, 3 fois 7, donc 7 cailloux à la petite jamarat, 7 cailloux à la moyenne jamarat et 7 cailloux à la grande jamarat. Alors, ne sont pas plus petites, moyennes et grandes, hein. Elles ont la même taille, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Ensuite, le lendemain, pareil, Yom al-Farr, Yom al-Qarr, le 11 de l'Hijjah et le 12 de l'Hijjah, c'est-à-dire le surlendemain de l'Aïd, eh bien, tu vas encore une fois jeter les jamarat trois fois, la petite, la moyenne et la grande. Et là, tu auras terminé essentiellement les rites et il te restera que le tawaf, l'ifada. Si tu l'as fait le jour de l'Aïd, c'est bien. Mais sinon, tu n'as rien d'autre à faire. Bien sûr, quand on parle du tawaf, il y a aussi le sa'i, le parcours entre le Safa et le Marwa. Bien sûr, que comme on l'a fait au début quand on a fait la Umra. Et enfin, et tu termines le hajj par le tawaf d'adieu, les tawaf al-wada', qui est tout simplement de tourner 7 fois autour de la Kaaba et de terminer par 2 unités de rak'at derrière maqam Ibrahim. Qala ta'ala wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Et à chaque fois que tu fais le tawaf 7 fois autour de la Kaaba, tu dois toujours terminer par 2 rak'at, 2 unités qui ressemblent à salat al-fajr, c'est-à-dire la Fatiha, qul ya al-kafirun, avec la Fatiha, la deuxième raka, avec Sourate l'Ikhlas.
Bien, mais écoutez, bonne fête à tous. Cher Youssef, est-ce que vous avez des personnes en particulier à qui vous voulez envoyer un message? Profitez-en.
Bien sûr, on pense avant tout, aux vivants et à ceux qui nous ont quittés. Donc on pense bien sûr à une partie de nos parents, nos grands-parents qui nous ont quittés. On pense à nos familles, bien sûr. À nos enfants.
Mais papa et maman, ils sont là, non?
Rahimahullah. Papa nous a quittés, bien sûr, il y a quelques années. Un jour de Eid, en plus.
Ouais, bon, machin.
Voilà, il y a 7 ans. Et la maman, bien sûr, alhamdoulilah, est encore là.
Où ça?
J'ai eu le plaisir, d'aller ici, en région parisienne.
Machallah.
J'ai eu l'occasion de partir avec elle au bled il n'y a pas si longtemps.
Donc, tu lui dis quoi, là, à ce moment-là? T'écoutes à la radio.
Un
là.
Gros bisou avant tout. Qu'on l'aime avant tout. Mubarak, nous Saïd, tous ses enfants. Et un Eid, walillah, alhamd. Et voilà, un Eid,
et madame, on sera, et les enfants,
oui, madame, les enfants,
les frères,
bien sûr,
les
frères et sœurs, toute la famille, mais bien sûr une spéciale à la maman, ce qui est normal, c'est comme
ouais,
ça.
C'est, voilà. C'est très bien, machallah.
Alhamdoulilah.
Moi aussi, je voudrais souhaiter une bonne fête de l'Eid à mon papa, ma maman, ma maman aussi, c'est-à-dire Allah Alhamdoulilah. Allah écoute de sa miséricorde. À tous mes frères et sœurs, toute la famille, à toute l'équipe de Beurre FM, on peut pas oublier l'équipe de Beurre FM qui fait un travail excellent tout au long de l'année. Qui est un véritable service public pour nos auditeurs, auditrices, et même surtout ceux qui sont de confession musulmane. Et puis, bien entendu, à tous les pèlerins, on fait des prières qu'Allah Azzawajal accepte et agrée leur pèlerinage, parce que cette année, ça a été dur. C'était compliqué, il y a eu beaucoup de complications. Donc, on voudrait qu'Allah Azzawajal les récompense pour tous les efforts qu'ils ont réussi à supporter et surmonter pendant ce voyage. Et كل عام انتم بخير وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
On n'oublie pas forcément, oui, c'est juste une obligation, bien sûr, responsable, morale et éthique, de penser bien sûr à une grande partie de nos frères et de nos sœurs qui souffrent aujourd'hui par ces moments de joie, de plaisir, de partage et d'élévation spirituelle, malheureusement qui souffrent à travers le monde.
Non.
Voilà, merci. Bonne fête à tous. Vous restez avec nous toute la journée. Vous pourrez passer les messages à tous ceux que vous aimez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. C'est l'Aïd sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.